la bienvenue dans cette émission. Situation sécuritaire dans la région des Bénin au Nord Kivu. Au moins 60 personnes ont été tuées par les présumés EDF ces 7 derniers jours dans les territoires des Bénin. 19 personnes ont trouvé la mort lors d'une incursion des rebelles EDF dans les villages Kirindera le dimanche 12 mars. À Mukondi, toujours dans les mêmes territoires des Bénin, c'est au moins 40 civils qui ont été tués et de nombreux autres grièvement blessés dans une attaque de ces mêmes rebelles EDF le 8 mars dernier dans la nuit. Une autre attaque a eu lieu le 7 mars dans la chefferie des Bachou, territoire des Bénin, par des hommes aux armées identifiées comme des rebelles EDF, causant la mort d'au moins 5 personnes. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a condamné jeudi 9 mars avec la plus grande fermeté les tueries ignobles de plusieurs dizaines de civils survenus à Mukondi et Maoussa, à 20 km de la ville de Beni dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué de presse, Bintou Keïta exhorte les autorités congolaises à diligenter une enquête et à traduire en justice les auteurs de ces exécutions sommaires. Quelle analyse faire du regain des massacres des civils dans les territoires des Beni au Nord Kivu? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous recevons Mouindo Zangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est élu de la province du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur le ministre Mouindo Zangi.
Bonsoir.
Edgar Matesso, premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Bonsoir, monsieur Edgar Matesso.
Bonsoir, monsieur le journaliste et à tous les co-débatteurs.
Et maître Rigen Mijiri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Bonsoir, maître Rigen Mijiri. Maître Rigen Mijiri, est-ce que vous êtes là? Bienvenue à tous, une fois de plus, dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Nous l'avons dit au sommaire, dans les territoires des Beni, au Nord Kivu, 19 personnes tuées, un centre de santé, des maisons d'habitation ainsi qu'un hôtel de la place incendié, tel est le bilan encore provisoire d'une nouvelle incursion des rebelles EDF dans les villages de Kirindera au petit matin du dimanche dernier. Guylaine Kassassia pour les détails.
Le village de Kirindera est situé à plus ou moins 6 km de la commune rurale de Kyondo, dans la chefferie de Bachou. Mouindo Viaoula Joachim, bourgmestre de la commune de Kyondo, qui confirme l'attaque, indique que ses assaillants ont également porté plusieurs personnes et des biens pillés. Pour l'instant, ajoute la même source, le fouille se poursuivent, chose qui pourrait alourdir le bilan plus tard. Nos efforts jusqu'ici pour avoir la réaction de l'armée n'ont pas abouti. Par ailleurs, le gouverneur du Nord Kivu en congé, Karline Zanzuka Sivita, qui est un élu du terroir, a dans un tweet publié ce dimanche matin, déplorer cette énième attaque des ADF dans la chefferie de Bachou. Il indique que tous les grands villages aux alentours du parc national de Virunga ont besoin d'une couverture sécuritaire. Pour rappel, cette attaque est la troisième dans la région en l'espace de moins d'une semaine. Les 40 victimes de l'attaque de Mukondi mercredi ont été inhumées ce mercredi 11 mars. Les trois attaques ont jusqu'à causé la mort de près de 70 personnes civiles. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Capi.
Merci à vous, Guylaine Kassassia. Consécutivement à cette reprise des massacres dans les territoires de Beni, deux jours de deuil ont été décrétés depuis hier lundi par la société civile de la chefferie des Bachou. Selon Roger Ouangeve, son président, cela est une façon de rendre hommage aux victimes des deux dernières attaques des EDF dans les villages de Mukondi et de Kirindera. Des attaques qui ont causé la mort d'au moins 50 civils et des dégâts matériels importants enregistrés. La même source indique que les écoles, centres de santé et pharmacies ne sont pas concernés par ces jours de deuil. Cet appel a été suivi par la population des différentes agglomérations de la chefferie des Bachou, renseignent certaines sources sur place. Mouindo Zangi, je rappelle que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, vous êtes élu de la province du Nord Kivu. D'abord, vous, en tant que membre du gouvernement central et aussi élu du Nord Kivu, qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez des nouvelles faisant état du regain des massacres dans les territoires de Beni?
D'abord, c'est un sentiment de colère et de consternation de voir comment les EDF continuent à semer la mort dans cette partie de la province, et ça a trop duré depuis 2014. Et je vous dis que ces deux dernières semaines, aussi tous ces trois derniers jours ont été très sanglants. Ils ont attaqué à Mukondi et puis ils ont attaqué à Kirindera. Aujourd'hui, toute la journée, ils sont à pleine campagne d'attaque contre les villages. Ils sont à Mabuku, ils vont vers Mabalako, tous les villages aux environs. C'est la première fois d'ailleurs que dans cette zone, il y a des attaques à pleine journée où une longue colonne des EDF effectivement se promène dans cette partie de la province. Et donc le message que je peux donner est un message de condoléances et de compassion et de dire à la population effectivement que ce qu'on peut faire, c'est de mettre les efforts les plus forts pour essayer de voir comment juguler cette question puisqu'elle a tellement trop duré. Ça s'explique aujourd'hui par l'intensification des opérations dans le parc par la coalition, par l'opération Shuja, notamment du côté du parc. Les EDF à représailles, malheureusement, ils attaquent la partie la plus vulnérable, donc la plus faiblement tenue. Il faut savoir, par exemple, que pour cette opération, il y a une couverture du côté des UPDF et une autre couverture qui devait l'être par les FRDC. Malheureusement, avec tout ce qu'on a comme guerre du côté de Rutshuru et ce qu'on a connu du côté de Rundi et de Tibirizi, il y a eu des troupes qui ont été envoyées là-bas et qui ont malheureusement laissé derrière des positions faiblement tenues du côté est de la chefferie de Bachou, ce qui fait que les EDF ont eu beaucoup plus de facilité de pouvoir se promener dans cette contrée-là et de tuer la population, malheureusement.
Oui, monsieur le ministre, on avait observé une certaine accalmie dans ces territoires du fait des opérations FRDC et UPDF. Certains habitants commençaient même à regagner leur village. Il y a également l'état de siège décrété depuis plus de 2 ans, n'est-ce pas, dans cette partie du pays. Qu'est-ce qui peut expliquer cette reprise des massacres dans cette partie du pays? 2 hypothèses que vous semblez, n'est-ce pas, et confirmé dans vos propos, soit le gouvernement concentre tous les efforts sur la partie sud de la province suite à la guerre du M23, soit il y a un certain relâchement, n'est-ce pas, dans les opérations conjointes FRDC et UPDF. C'est quoi, à votre avis, l'hypothèse la plus plausible, parce que vous avez déjà commencé à expliquer le fait que, n'est-ce pas, les opérations FRDC et UPDF sont concentrées dans les parcs, donc on peut dire que les militaires ont dégarni certaines positions et vous avez même, n'est-ce pas, relevé le fait que il y a des éléments qui ont été envoyés à Rutshuru, n'est-ce pas, dans les combats contre les M23 et donc vous confirmez ces 2 hypothèses, il y a un relâchement, n'est-ce pas, dans les opérations FRDC et UPDF, mais aussi les gouvernements aujourd'hui se préoccupent beaucoup plus de la partie sud du Nord Kivu. Suite à la guerre du M23. C'est ça, monsieur le ministre?
Alors je ne le confirme pas de la manière dont vous le dites. Je le dis seulement comme une explication de cette situation qui se passe. C'est-à-dire que cette accalmie qui avait été observée, aujourd'hui, on doit reconnaître, tous ceux qui se sont intéressés reconnaissent, l'apport qui vient de cette opération Shuja. C'est-à-dire que si vous voyez, par exemple, les endroits où les opérations ont été intensifiées, qui étaient les bastions des rebelles, notamment dans la chefferie de Watalinga et dans le secteur de Rwenzori, on sent qu'il y a une accalmie relative. Je parle bien de relative parce que, à certains endroits, on a encore des mouvements de rebelles qui passent par là, mais il faut dire quand même que la présence militaire, notamment ougandaise et des FARDC, elle est dissuasive sur ce côté-là. Et comme les opérations avaient été planifiées, il y avait des zones qui n'étaient pas encore concernés par l'opération conjointe et qui devaient être pris en charge par les troupes de FRDC. Malheureusement, avec ce qui se passe à Rutshuru, c'est très difficile pour les FRDC de ne pas recourir aux troupes qui seraient retrouvées dans cette zone-là. Donc ceci explique cela. Je voudrais aussi dire que c'est le temps pour nous tous d'intérioriser cet appel qui a été lancé pour la mobilisation générale. Parce que on ne peut pas, lorsqu'on fait face à un groupe terroriste comme celui-ci, qui se filtre, qui se faufile dans les villages, pour s'attaquer aux populations innocentes, pour s'attaquer aux populations non armées, on ne peut pas ne pas avoir des réflexions poussées pour voir comment avoir des éléments disponibles à tout moment qui puissent être positionnés dans ces villages pour pouvoir les appuyer. Nous donnons de l'appui à cette proposition d'ordonnance qui a été adoptée par le Conseil des ministres pour avoir le corps des réservistes. Le corps des réservistes, c'est-à-dire, nous permet d'avoir des éléments qui, lorsque le gouvernement est en situation, par exemple, où il a besoin d'un appui d'effectif, il puisse les déployer directement dans la zone. Par exemple, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, c'est des gens qui se promènent sur un axe à pleine journée et qui tuent les gens. Et dans la région, parce qu'il n'y a pas d'effectif, bien évidemment, on ne sait pas prendre en charge directement la situation pour pouvoir les combattre. En dehors de lorsqu'ils sont arrivés à Mamoulengwa, il y a certains éléments de Maïmaï qui ont tiré, et on a vu qu'ils sont quand même entrés en panique, qui malheureusement n'a pas réussi à pouvoir le faire. Donc, d'où cette idée d'appuyer effectivement cette nouvelle réforme de création de la réserve armée de la défense, pour essayer d'avoir dans tous ces endroits-là des éléments qui peuvent faire face à ce terrorisme. Le terrorisme ne choisit pas les gens qui sont armés, malheureusement. Ils viennent et ils s'attaquent aux populations, et comme on ne saura pas mettre un militaire dans chaque village, voilà la nécessité d'avoir des éléments qui sont capables d'être déployés ou d'être maintenus dans des entités pour faire face, bien évidemment, avant l'arrivée de l'armée, à ce genre de massacre des EDF.
Oui, Excellence, c'est parce que vous confirmez, n'est-ce pas, le fait que l'effectif de l'armée nationale ne peut pas, n'est-ce pas, lui permettre d'opérer en même temps contre les M23 et contre les EDF. Pourquoi ne pas mettre en place un mécanisme pouvant momentanément sécuriser les populations civiles parce que la vie est sacrée? Lorsque vous savez qu'on n'a pas assez d'éléments pour sécuriser ces populations-là, pourquoi ne pas penser, réfléchir sur comment sécuriser les populations?
Oui, c'est bien évidemment, ce que je vous donne ici, ce qui a été adopté par le gouvernement, c'est dans le cadre, bien évidemment, de renforcer la sécurité des populations dans des villages où il sera de toutes les manières pas possible de déployer des militaires partout. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire, et je cite sur ça, et je demande à la jeunesse d'être mobilisée derrière ce projet-là, pour qu'effectivement des réservistes qui peuvent être utilisés, même dans des zones comme celle-là, pour sécuriser des villages, que les gens s'enrôlent massivement, que les gens se fassent identifier massivement, parce que c'est un phénomène nouveau à la République démocratique du Congo. C'est que les EDF font.
Alors, donc, il faut reconnaître aussi que les mesures qui ont été prises pour mettre fin à l'activisme des EDF, notamment les opérations conjointes FARDC et UPDF et l'instauration de l'état de siège, n'ont pas suffi, n'est-ce pas, à neutraliser la force de ces rebelles.
Alors, moi, je ne parlerai pas de ne pas suffi ou de chèque ou de réussite. Je vais seulement dire que jusque-là, on n'a pas encore réussi à mettre fin à ces gens-là. Et donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons être le plus imaginatifs possible pour arriver à mettre fin à cette histoire-là. Donc, il y a des zones qui, par exemple, dans lesquelles l'opération Sulia a été la plus efficace, et aujourd'hui, on sait qu'il y a une diminution des cas de tuerie dans ces zones-là. Donc, cette expérience doit maintenant être étendue à d'autres zones dans lesquelles ces gens se sont réfugiés. Si vous voyez la situation qui se présente, je n'aurais pas eu le courage de le dire, mais je vous dirais par exemple que les zones que nous étions censés protéger sont aujourd'hui des zones de refuge, des EDF qui sont traqués à l'intérieur du parc de Virunga. Donc, il faut que nous prenions des mesures pour mettre les EDF dans un entonnoir pour qu'effectivement, ils ne soient plus capables d'aller semer la mort dans des zones qui sont faiblement tenues par les forces de défense et de sécurité et les forces coalisées.
Et ces mesures, c'est le gouvernement qui doit les prendre. Et, Excellence, c'est plus de 60 personnes tuées en l'espace de 4 jours, mais on ne voit pas, on ne sent pas le gouvernement central, il ne se prononce pas, il ne mobilise pas. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre?
Évidemment, si on en parle, je suis membre du gouvernement central. Si on en parle, c'est qu'on est fortement préoccupé. Je ne peux pas, à cet état ici, vous dévoiler des informations notamment qui concerne les opérations qui sont en cours. On est fortement préoccupé, et vous avez suivi pendant le Conseil des ministres de vendredi, le gouvernement a bien évidemment fait une déclaration pour déplorer la situation telle qu'elle s'est passée au premier endroit où les gens ont été tués. Vous avez suivi la consternation du gouvernement par rapport à cette situation qui se passe dans cette partie de la province. Je ne peux pas vous dire ici ce qui est en train d'être fait pratiquement, mais dans les jours, pour ne pas dire les heures qui suivent, effectivement, il y aura des déploiements conséquents dans cette zone pour sécuriser la population.
Merci, Monsieur le Ministre, que nous vous gardons encore dans cette émission. Edgar Matesso, vous êtes premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Vous qui êtes dans la région, quelle est la situation en ce moment-ci dans Beniville et Beni Territoire?
Merci, M. Guy, pour la et surtout de nous avoir associés dans cet échange. De prime abord, je présente mes condoléances aux familles des victimes parce que nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles et la situation telle qu'elle se présente, elle est vraiment catastrophique. Maintenant, depuis le 8 mars jusqu'à maintenant, on compte environ 97 victimes. Il faut considérer même ceux qui sont côté de Kirindera parce que le bilan d'aujourd'hui est allé déjà au-delà d'une telle et que donc les gens ne cessent d'être fauchés inutilement. Et Agriculta, justement, l'intervention de son Excellence, Monsieur le Ministre, vous pouvez déjà sentir que la zone de Beni est vraiment sacrifiée, parce qu'on sent qu'il y a une grande concentration du côté de Routour, qu'on est en train de garder certaines positions de phare d'essai à Beni, et malheureusement, même à Routour, on ne sent pas le succès de phare d'essai. Dans ce temps, la zone qui a été fauchée aujourd'hui, c'est une zone sous contrôle des Maïmaï. Les Maïmaï qui sont en train de faire tout ce qu'ils veulent dans la zone, il faut payer les taxes, ils imposent leur justice et ils sont en train de mobiliser la population et l'orienter comme ils veulent. Et donc, c'est eux qui font là-bas la loi. Malheureusement, ils ont été placés là-bas depuis le mois de mars 2019 par le gouvernement sous prétexte que c'était de démobiliser. Mais quelques temps après, nous avons constaté qu'ils étaient déjà armés. Nous nous posons la question si c'était par le gouvernement ou par qui. Et le gouvernement les laisse dans une très vaste zone qui constitue le couloir qu'on considérait être le passage des ZDF vers une partie où ils ont mener ces massacres et pendant ce temps, on ne sent pas même une certaine mobilisation de l'armée pour essayer de contrer ces rebelles, ces bourgeois qui sont en train de se balader dans la zone depuis le 15 jusqu'au 14 aujourd'hui, ils sont là sans être inquiétés. Et ce qui est anormal, c'est que ces maïmaï, ils sont en train de faire tout ce qu'ils veulent dans cette zone. Et il faut aussi considérer que maintenant, il y a beaucoup de déplacés en ville de Butembo, en ville de Beni et dans d'autres grandes agglomérations environnantes. Mais malheureusement, même ces agglomérations sont sous menace sécuritaire à l'heure qu'il est. Et la question que l'on se pose, pourquoi le gouvernement ou les responsables des opérations militaires choisissent d'abandonner ainsi cette zone à la merci de l'ennemi, alors qu'il y avait moyen de pouvoir utiliser une stratégie d'encerclement, parce qu'ils venaient de quitter leur milieu naturel où ils ont toujours opéré. Donc la partie est, ils se trouvent maintenant dans la partie ouest. Vous sentez qu'il n'y a pas une certaine mobilisation de l'armée pour aller les encercler du côté où ils viennent d'aller. Et vous comprenez également que lorsque son Excellence a inventé les opérations Suja, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la zone des opérations, on ne connaît pas les limites de ces opérations. Et voilà que même dans la zone opérationnelle, on peut continuer à trouver des mains qui sont gardées par le gouvernement, par lesquelles peut passer l'ennemi et aller opérer à vive joie sans être inquiété et continuer à faire ce qu'il est en train de vouloir faire.
Et donc, ici,
je voudrais Oui.
Oui, et donc là, vous nous révélez que les villages où opèrent ces ZDF, depuis un certain moment, c'est des villages qui sont contrôlés par les Maïmaï. Alors, comment réagit l'armée nationale qui est censée sécuriser la population? Parce que les Maïmaï n'arrivent pas à sécuriser la population. La preuve en est que c'est tous les jours qu'il y a des massacres, donc les Maïmaï n'arrivent pas, n'est-ce pas, à protéger la population contre les attaques des EDF. Comment réagit l'armée, vous qui êtes sur le terrain?
Jusqu'à présent, comme j'étais en train de les décrire, depuis le mercredi 8 mars, quand les centres d'enrôlement ont commencé à être attaqués, et lorsque certains villages ont commencé à subir des massacres, il n'y a pas eu une intervention militaire. Et comme vous le savez, ce sont les Maïmaï qui ont tenté d'aller secourir les dimanches, mais avant. Mais depuis quand les Maïmaï ont reçu la mission du gouvernement que c'est eux qui doivent garder la population, n'est-ce pas sacrifier cette population?
Merci.
Pourtant
merci,
également, cette... Oui.
Merci, Maître Rigen Mouviri, avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Quelle lecture vous faites de ces massacres qui reprennent dans ces territoires de Béni, au nord Kivu? Allô, Maître Mouviri, est-ce que vous êtes là? Décidément, la ligne de Maître Mouviri pose problème. Monsieur le ministre, lorsque vous suivez Edgar Matesso de la société civile qui est sur le terrain et qui fait les révélations selon lesquelles les localités qui ont été attaquées sont contrôlées par les Maïmaï et que l'armée ne réagit pas, ne fait rien pour protéger et les populations qui ne sont pas non plus protégées par les Maïmaï parce que la preuve est que c'est tous les jours que ces populations se font tuer. Quand vous entendez de telles révélations, comment vous réagissez, monsieur le ministre?
Bon, en fait, devant un résultat aussi sombre, on ne peut pas avoir de réaction autre que celle de dire que, bon, voilà, il a raison. Comme je l'ai dit dans mon introduction, les positions qui sont attaquées sont faiblement tenues par les FARDC. Donc les EDF, puisque eux aussi, ils savent que s'ils viennent attaquer les endroits où ils peuvent être repérés par les FARDC, ils essaient d'attaquer les endroits parce qu'ils sont renseignés effectivement que ces endroits sont faiblement tenus par les FARDC. Donc lorsqu'ils disent qu'il y a des endroits dans lesquels les Maïmaï se retrouvent seuls, il a raison. Et les informations que nous avons de terrain, c'est que les plusieurs endroits qui ont été bien évidemment abandonné par des unités qui ont été rappelées pour faire face à la rébellion d'agression du côté des Rutshuru, sont malheureusement à la merci des jeunes et des groupes armés, ainsi de suite. Donc, il a raison de les souligner. Je voudrais aussi remarquer, le faire remarquer qu'il a souligné que la seule fois où ces gens qui se promènent avec la mort dans leurs bras sont arrivés à Mabulengwa, ils ont quand même été attaqués par un groupe. Je ne dis pas que ce sont les femmes, mais qu'ils les ont attaqués, ils savent. Et c'est pour cela que la réflexion que nous menons, c'est de dire que les endroits qui sont tenus par des groupes, qui savent que ces groupes sont vraiment à même de pouvoir donner une résistance ou une dissuasion, on sent qu'à ces endroits-là, il y a pas de facilité pour les EDF de pouvoir se promener comme ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui. Je voudrais donc dire que ce qui se fait aujourd'hui, c'est inacceptable, bien évidemment, mais au vu de la situation de terrain, ça nous interpelle, à part que le gouvernement, de pouvoir bien évidemment tenir tous ces endroits-là. Parce que on fait la guerre à l'est, il fallait qu'on fasse des boucliers à l'ouest, pour que ces gens ne viennent pas se réfugier dans les endroits, c'est tous les endroits d'assemblement peuplé comme la chefferie de Bachou, pour venir attaquer la population. C'est pour cela que je vous dis que je ne disais pas des choses ici sur le plateau, mais le gouvernement s'active pour que très rapidement les zones autour du parc de Birunga, notamment la tête chefferie de Bachou, soient au lieu des positions militaires qui fassent la dissuasion pour empêcher à ces gens de pouvoir se promener à tuer les gens comme ce qu'ils ont fait la journée d'aujourd'hui.
Oui, monsieur le ministre, est-ce que le gouvernement congolais avec le gouvernement ougandais ont déjà évalué de manière objective les opérations conjointes FARDC-UPDF? Et parce que selon certains stratèges, déjà les stratégies qui sont utilisées sur le terrain pour combattre les EDF poseraient problème dans ce sens que c'est des stratégies qui consistent, n'est-ce pas, à disperser les EDF à l'intérieur du territoire congolais au lieu de les combattre de manière à les pousser vers la frontière ougandaise pour les amener, n'est-ce pas, à rentrer dans leur pays d'origine. Est-ce que vous avez tenté déjà de faire des évaluations de manière objective, sans complaisance.
Oui, il faut vous dire que lorsque l'opération avait été planifiée, on avait tenu compte de tout cela. C'est pour cela que quand la société civile parle des zonages, il y a effectivement des zones qui ont été définies pour que, voilà, lorsque les opérations conjointes se déroulent, par exemple, à la frontière, qu'il y ait des unités de FARDC à couverture pour que ces gens ne puissent pas aller du côté de l'Ouest. Cela avait été prévu de cette manière-là, mais vous savez que quelques jours après le début de cette opération, les FARDC ont été confrontés à une deuxième guerre qui leur a été imposée du côté du sud de la province du Nord Kivu. Donc les effectifs qui sont dans la zone n'étaient plus à même de pouvoir faire cette couverture de derrière. C'est pour cela que nous déplorons que les ennemis, bien évidemment, ils trouvent la possibilité de se concentrer du côté de l'Ouest. Mais je vais vous dire par exemple que la phase qui va suivre, c'est une phase cette fois-ci qui permet à ce que les opérations conjointes se déroulent même en profondeur du côté de l'Ouest, notamment dans les Mambasa, dans lequel effectivement l'opération Sujoa va pouvoir s'étendre, et du côté de Bachou. D'ailleurs, les représailles qui se passent aujourd'hui, c'est des représailles à la suite des opérations menées du côté déjà du parc dans la CPI de Bachou, et donc la représailles, les EDF essaient de tenir la mort tout autour. Et tout ça pour vous dire effectivement que si on avait les effectifs de l'OFRDC du côté de l'Ouest, on n'aurait pas assisté à ces événements macabres auxquels nous assistons aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, moi je garde toujours espoir que nous avons la possibilité d'arrêter cette affaire. Il est très difficile de se protéger dans une zone où les gens se promènent pour attaquer les populations civiles non armées. Donc il faut être le plus efficace possible pour être à même de pouvoir les empêcher de commettre ces attentats contre la population.
Monsieur le ministre, lorsque les populations qui sont exposées à ces différentes attaques des EDF, lorsque ces populations-là vous suivent ce soir, quelle est l'attitude qu'elles doivent adopter? Doivent-elles rester dans leur village tout en sachant qu'il n'y a pas assez d'éléments FARDC pour les protéger, donc à tout moment, elles peuvent se faire tuer? Ou doivent-elles prendre des dispositions pour se mettre à l'abri? Qu'est-ce que vous conseillerez à cette population? Parce que vous venez de reconnaître que l'État congolais, le gouvernement congolais n'est pas en mesure de sécuriser comme il se doit ces populations.
Tout ce que je dois vous dire maintenant, c'est qu'il y a des autorités et l'État de siège au niveau local qui vont devoir passer des messages de consigne par rapport à la conduite des opérations. Ce que je vais vous dire maintenant, moi, en tant que député de la région et membre du gouvernement, même si je ne suis pas ministre de la Défense, c'est que nous travaillons pour qu'il y ait un déploiement très rapide des éléments coalisés, c'est-à-dire l'UPDF et FARDC dans la zone qui est exposée directement par les attaques des EDF qui sont mises à mal du côté du parc national de Virunga dans les grabens qu'on appelle les grabens de Bachou. Donc, c'est ça qui doit être fait très rapidement parce que on est après enrôlement, en procédure d'enrôlement. Et on sent effectivement que tout ça, toute cette action ici qui est menée subitement par les EDF va avoir aussi comme conséquence de stopper les opérations d'enrôlement et de perturber cette quiétude de la population. Et donc, là où il n'y a pas de militaires, où il n'y a pas de base militaire pour protéger la population, ça va être très difficile que la population s'y maintienne parce que elle n'est pas à l'abri des attaques. Donc, ce qui doit être fait très rapidement, c'est le déploiement des unités là-bas, et surtout la poursuite de ces éléments-là, puisque c'est un escadron qui sème la mort. Donc, cet escadron doit être poursuivi pour qu'il soit mis hors d'état de nuire très rapidement, et pour faire revenir la quiétude de la population. Sinon, la population elle-même ne sera pas restée dans des endroits où ils savent qu'à tout moment, ils peuvent être attaqués par les EDF.
Merci. Nous allons maintenant écouter les auditeurs qui veulent donner leur point de vue par rapport à ces sujets. Monsieur Edgar Matesso, vous allez réagir à la réflexion de Sylvano Asanda, qui nous appelle depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu.
Oui, merci beaucoup. C'est Sylvano Asanda depuis Bukavu, au sud Kivu. Par rapport à ce fléau qui se voit ou qui se visent à l'est du pays, ce fléau peut s'analyser autour de la faiblesse de l'État. Et il faudrait que l'État puisse revoir les alternatives sécuritaires et que l'État puisse restaurer l'appareil pour restaurer l'autorité de l'État. En ce sens que l'État se comporte, l'État se porte à un sapeur-pompier qui veut juste éteindre le feu après avoir que l'incendie puisse être vu. Merci beaucoup.
Edgar Martesso, votre réaction?
Oui, merci beaucoup. En fait, vous constatez avec moi, vous comprenez avec moi que notre auditeur revient sur la faiblesse de l'État. Même un membre du gouvernement venait de reconnaître. Vous avez constaté que dans toutes les interventions, il montre que soit les Maïmaïs peuvent intervenir, soit ce sont les Ougandais qui viendront nous sécuriser. Et donc, combien de fois on continuera à cracher sur les forces armées de la République? Et alors, pendant que nous, sur le terrain, nous pensons que c'est l'unique armée que nous avons et qui puisse venir à notre rescousse. Et vous comprenez donc que la zone de Mabuku, la zone de Mabulengwa, la zone de Kininga, la zone de Mabalako n'est pas suffisamment renforcée en hommes à part d'ici, parce que justement, même le gouvernement ne compte plus sur cette armée. Et comment voulez-vous que nous puissions gagner une guerre comme celle de l'ADF, comme celle de M23, pendant que nous-mêmes, nous ne savons même pas investir dans notre propre armée. Et donc, cette attitude du gouvernement qui semble apprendre chaque jour et ne compter que sur l'extérieur, voilà les choses qui nous exposent. Parce que si vraiment les femmes étaient sentées qu'elles avaient un parent qui s'occupe d'elles, et qui pouvaient les équiper, leur doter des moyens pour aller combattre, eh bien, nous nous sommes confiants que la solution serait trouvée. Mais on fait venir les Ougandais, on va parler des Kenyans, des Tanzaniens, je ne sais pas, patati patata. Donc, vous comprenez que la solution est loin d'arriver parce que nous ne savons même pas investir en nous-mêmes, nous ne savons même pas compter sur nos propres formations et même, quand on dit que nous n'avons pas suffisamment d'effectifs, le gouvernement est installé depuis 2019. Pourquoi on n'a pas songé à la formation des nouvelles recrues qui devaient faire la relève et couvrir les gaps? Nous sommes dans une zone opérationnelle. Nous sommes dans une zone sous état de siège. Pourquoi ne pas renforcer là où l'on sent que c'est nécessaire et qu'il faille apporter vraiment des militaires qui pourraient intervenir et protéger la population. Et donc, c'est cette population qui n'est pas protégée, qui se sent abandonnée, malheureusement, qui doit recourir à ce même gouvernement. Donc, le gouvernement ne doit pas se comporter comme s'il était déjà démissionnaire, mais plutôt, il doit prendre la situation à main et continuer à agir radicalement pour sauver la situation, parce qu'elle ne cesse de s'empirer, elle ne cesse de se dégrader au jour le jour.
Edgar Matesso, je rappelle que vous êtes premier vice-président de la coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu. Si les mesures telles que les opérations conjointes UPDF et FARDC ainsi que l'instauration de l'état de siège ne suffisent plus pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'activisme des EDF, c'est quoi l'alternative à votre avis, vous, membre de la société civile?
En fait, comme vous l'aurez constaté, l'opération, les accords entre l'UPDF et les FARDC ne sont même pas connus. La zone opérationnelle n'est même pas connue. Et donc, on ne peut même pas continuer à compter sur une telle opération dont on ne connaît pas les clauses. Et pour nous, nous pensons qu'il faut investir dans ses propres ressources humaines. Nous avons une jeunesse, nous avons une armée, nous avons des hommes, des fils de ce pays. On ne doit pas continuer à compter sur l'extérieur pendant que nous-mêmes, nous avons nos propres ressources. Nous pensons que pendant que l'on sera en train d'exfiltrer l'armée, il faut justement doter cette armée de ses moyens et appeler les jeunes courageux, les jeunes dynamiques, patriotes, prêts à agir, prêts à travailler, ces volontaires qui doivent faire la relève de ce pays afin que l'on puisse résoudre efficacement le problème, mais aussi longtemps que continuera à penser que il faut recourir à quelqu'un d'autre pour résoudre les problèmes de chez soi, voilà ce qui nous fragilise et c'est ce qui fait que justement l'ennemi puisse opérer pendant autant de jours, pendant même dans des zones, dans des recoins où il pouvait être simplement maté, encerclé, parce que là où il venait d'aller, mon cher, je vous l'ai dit, c'est très facile, même moi qui ne suis pas militaire, je vous dis, il s'agissait simplement de ranger les militaires de tous les côtés. C'est un petit triangle qui peut être encerclé et étouffer l'ennemi. Mais on les laisse circuler là-bas pendant toute une semaine et il a l'état de se réorganiser. Et nous craignons que même il ne puisse créer là-bas son bastion et commencer à opérer même à partir des...
Merci, monsieur le ministre Mouindo Nzangi. Vous allez aussi réagir à la réflexion de notre auditeur qui nous appelle une fois de plus de Bukavu, monsieur Patrice Mouderoua.
Je vous appelle depuis Bukavu au sud Kivu. Nous sommes fatigués des enquêtes qui n'aboutissent à rien. À mon avis, je pense que les autorités congolaises doivent éviter de minimiser certains groupes armés au profit du M23 tenu par les Rwandais. Car pendant qu'on est en train de se concentrer sur le M23, d'autres groupes de rebelles profitent de cette occasion pour aller s'attaquer contre les civils. D'où il faut mener des offensives contre ces hors-la-loi jusqu'à leur neutralisation totale. Car trop c'est trop.
Monsieur le ministre Mouindo Nzangi.
Il a raison, on doit y arriver, mais je vais revenir sur ce qu'a proposé notre ami Edgar Matesson. C'est bien évidemment... C'est que le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi de Tshilombo, est en train de faire. Il a lancé la mobilisation générale. Les jeunes ont été, les volontaires se sont prononcés. Ils sont en train d'être formés. Je ne vais pas donner beaucoup de détails sur ça. Et vous savez que nous sommes à pleine opération pour une montée en puissance de l'armée. Mais en attendant que nous puissions y arriver, Edgar Matesson, en attendant qu'on puisse y arriver, on ne doit pas laisser la population mourir parce que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 5 mois, nous allons avoir des bataillons qui vont commencer à venir pour pouvoir nous renforcer. En attendant, on a la possibilité, bien évidemment, de trouver des solutions à court et à moyen terme. Et c'est pour cela que je vous dis que, pour l'instant, on va compter avec les forces qui sont à notre disposition pour protéger la population. Et c'est important de le dire.
Malheureusement, les forces qui sont à votre disposition n'arrivent pas à protéger la population.
N'arrivent pas à protéger la population partout. Partout. Ce qu'il faut dire, il faut dire que partout. Parce qu'il y a une partie qui était la plus sécurisée, qui aujourd'hui est en phase d'être sécurisée. Même si ce n'est pas encore totalement. On voit que l'ennemi migre, change de terrain. C'est-à-dire que si on avait les effectifs devaient prendre en charge la partie qui, aujourd'hui, est en insécurité. Maintenant, on fait quoi? On attend ceux qui doivent venir des centres de formation qui viendront dans 3 mois, ou bien on déploie d'abord les équipes qui sont là-bas, qui étaient déjà du côté de l'Est, qui vont pousser un peu les opérations du côté de l'Ouest. Et donc, c'est ça la nouvelle, le nouveau format de cette opération qui vient d'être faite, qui va s'étendre dans les Bachous et dans les Mambasa. Et donc, pour essayer de mater ce groupe qui se balade partout et peut être demandé par rapport à ce qui se passe à l'Est. Et ce qui va être fait. Donc, ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui fait l'apologie des forces de l'extérieur. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été parmi ceux qui pensent que l'armée devait se renforcer. Ce n'est pas qu'il y a quelqu'un qui fait l'apologie de la jeunesse, qui se bat pour ce pays. Oui, parce que c'est le devoir de tout le monde de pouvoir se battre. Au lieu de rester sur les médias en train de pleurnicher et d'attendre le renforcement de l'armée qui viendra dans 3 mois, 5 mois, 6 mois, il faut conscientiser les gens localement que nous devons attaquer Congolais, attaquer jeunes Congolais, participer à notre sécurisation. Comment 15 personnes peuvent se promener et tuer dans une entité qui est habitée par plus ou moins 5 millions d'habitants et se promener comme ça, comme si on n'a pas force de pouvoir nous défendre nous-mêmes? C'est ça aussi l'esprit que nous devons avoir en tant que Congolais et de dire, voilà, nous devons appuyer notre gouvernement à pouvoir nous défendre nous-mêmes. Et je l'ai toujours défendu depuis trop longtemps, l'insécurité, le terrorisme, il n'y a aucun endroit au monde où le terrorisme a été vaincu sans la participation directe des locaux. Et ça, je le dis à tout le monde, cette occasion de formation ou de réservistes doit nous aider dans cette contrée-là qui est menacée par le terrorisme à avoir des jeunes gens qui vont devoir protéger des villages, qui vont rester là pour protéger des villages sous l'encadrement de l'État congolais, bien sûr.
Monsieur le ministre Mouindo Nzangi, je rappelle que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et vous êtes aussi un élu de la province du Nord Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qui se fait massacrer tous les jours? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire de manière à la rassurer que le gouvernement ne l'a pas abandonné et que les FRDC n'ont pas abandonné, n'est-ce pas, cette population? Aujourd'hui, ils vont passer la nuit et ils ne savent pas ce qui pourrait arriver la nuit. Qu'est-ce que vous, en tant que ministre et élu de cette contrainte, vous pouvez dire à cette population pour essayer de la rassurer?
Je voudrais vous dire, avant de donner mon message à la population, que moi-même, pendant le massacre de ces trois jours, j'ai perdu plusieurs membres de la famille. Donc c'est pour dire que c'est une situation qui me concerne directement en tant qu'individu, en tant que ressortissant de ce coin-là. Je voudrais dire que c'est très difficile aujourd'hui de faire passer le message auprès d'une population meurtrie et de leur dire qu'on est avec vous, qu'on vous accompagne. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on doit donner comme message à la population, c'est de dire nous essayons de faire tout ce qui est de notre possibilité pour pouvoir changer les cours de la situation. Les massacres doivent s'arrêter, mais moi je le dis, et j'ai toujours dit ça, que ça ne s'arrêtera pas seul. Ça va s'arrêter bien évidemment avec le concours du gouvernement, mais le gouvernement travaillera avec la population localement qui doit apprendre elle aussi à se défendre. Je le dis sans état d'âme, les EDF, les mêmes EDF qui sont en train de nous tuer aujourd'hui, ils ont fait la même chose en Ouganda, et nous savons qu'à 95, de 90 à 95, les populations locales de Kasese et de Bundibugyo ont été impliquées directement pour mettre fin à cette situation. Et nous-mêmes, nous devons le mettre en tête. Je voudrais que Edgar Matesso, qui est la société civile, puisse nous aider à faire passer ce message que on n'aura pas une protection seulement qui viendra de l'extérieur. Il faut que nous-mêmes, nous puissions développer avec le gouvernement, bien sûr, des capacités de pouvoir participer à cette autodéfense.
Merci.
Et c'est très important.
Merci. Je considère ça comme votre conclusion, monsieur le ministre. Edgar Martesso, en guise de conclusion.
Je voudrais demander, je voudrais appeler le gouvernement à plus de responsabilités, pas continuer à exposer ici la population. Je voudrais que dans l'immédiateté, l'on puisse retirer les Maïmaï qui sont dans la zone parce qu'ils sont sous le contrôle du gouvernement. Nous, il est possible de les retirer et rassurer la population par des positions de militaires congolais qui ont signé devant les drapeaux qu'ils doivent défendre l'intégrité nationale. Nous voudrions également que, bien que nous ne soyons pas des stratèges militaires, que cette zone peut être encerclée. Il faudra que l'on les fasse très vite avant que l'ennemi ne se réorganise et ne puisse se faufiler dans d'autres endroits. Enfin, je voudrais que l'on rassure vraiment cette population qu'elle est responsable, un parent responsable qui est le gouvernement qui est en train de suivre sa protection. Merci. Au jour le jour. Merci beaucoup.
Merci, c'est la fin de l'émission. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à M. le ministre Mouindo Nzangi et à M. Edgar Matesso. Et malheureusement, on n'a pas eu M. Rigen Miviri, qui est avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle, parce que sa ligne a posé problème. Merci aussi à Alain Ngoy qui était à la technique avec la participation de Charlie Louyeye et de Vanessa Kongolo sous la supervision de Martin Sobujangwe à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Kapi.